Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire, à la réalisation et la technique, mon vieux complice Léo. Et votre serviteur André Satenza, nouvelle émission Sentinelle d'Humanité, nouvelle saison, en direct du studio Gisèle Halimi. Aujourd'hui, parmi nous, nous recevons M. Slimane Touami. Monsieur Touami, soyez le bienvenu.
Bonsoir, Monsieur André Satenza.
Alors, vous êtes formateur, chercheur à l'Institut du Travail Social et Erasme. Vous êtes docteur en anthropologie, hautes études en sciences sociales. Mais j'ai vu dans votre CV que vous aviez une petite singularité. Vous avez démarré par un CAP de mécanicien de tourneur.
Tout à fait.
Comment arrive-t-on de la mécanique en CAP à une thèse en anthropologie? Quel est ce parcours?
C'est un parcours fait d'aléas, de rencontres, d'opportunités, de ruptures. Donc en effet, moi j'ai commencé avec un CAP de tourneur. J'étais tourneur sur métaux dans une petite ville de la périphérie de Toulouse. J'ai obtenu tout début des années 90. Voilà, donc parcours d'élève très moyen, on peut pas dire.
Et on s'améliore avec le temps, c'est ça.
On prend conscience de certaines choses. On prend conscience et on se découvre parfois des potentialités, ou plutôt certaines personnes nous aident à découvrir nos potentialités. Voilà. Donc, oui, moi, j'avais commencé par un CAP tourneur. Puis plus tard, j'ai fait ce qu'on appelle un bac pro. Donc, j'ai été ouvrier. Moi, je viens de milieu paysan, ouvrier agricole. Puis plus tard, ouvrier métallurgiste. J'ai travaillé en usine. Plus tard, dès qu'une fois que j'ai eu mon bac pro, j'ai essayé la fac pour voir, parce que j'étais quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. J'adorais lire. Et sur l'insistance d'un prof de français...
Ah, les bons profs, ouais, les vrais profs, non? C'est-à-dire ceux qui nous accompagnent ou qui vous accompagnent.
Un hussard noir, mais c'est humain. Ça. Ouais, il était humain. Malheureusement, j'ai appris son décès très récemment, le pauvre, donc j'ai une petite pensée émue pour lui. Et donc, il m'a poussé à aller à la fac. Voilà. Donc, il m'a dit, tu devrais essayer, voir. Je pense qu'il y a peut-être possibilité. En effet, et ce qui a marché, c'est que l'une des clés, c'est que on apprend un truc très important quand on est en lycée professionnel. C'est le travail en autonomie. Et or, le travail en autonomie, c'est ce qu'on demande à l'université. Voilà. Vous n'avez plus l'enseignant qui est derrière vous systématiquement à contrôler ce que vous faites. Donc, vous allez en cours, le prof n'est qu'un visage évanescent, et puis 6 mois après, vous avez votre partiel à terminer. Et donc, je m'apercevais que moi, j'arrivais avec un complexe par rapport au lycée classique, que ce que j'avais appris sur les bancs du lycée professionnel, en fait, m'avait pas mal avantagé.
Il y avait beaucoup de rigueur dans les lycées professionnels. Oui. Travailler à l'usine, c'est les procédures.
Il y
avait un esprit de solidarité assez intéressant, quand même.
Ouais, le monde ouvrier, c'est une autre planète pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, mon maître d'apprentissage, je m'en rappelle, j'avais un maître d'apprentissage qui avait fait la guerre d'Algérie, qui avait été l'un des rares prisonniers français par la LN, quoi. Donc ça me renvoyait déjà à quelque chose de très très loin. Il avait gardé aucune rancœur, d'ailleurs, vis-à-vis des Maghrébins. C'est assez curieux, quoi. Et puis, vous voyez des gens qui ont l'âge de votre grand-père, et puis vous voyez toutes les hiérarchies implicites, tous les codes liés au monde social, qu'est le monde ouvrier, qui est un monde aujourd'hui crépusculaire, hein.
Alors, vous avez enseigné à l'université Jean Jaurès, vous avez enseigné également chargé de cours à l'Institut catholique, à Sciences Po. De nombreuses publications dans des revues à comité de lecture sur les problématiques qui sont les vôtres, donc travail social, également des ouvrages en ethnologie, en anthropologie. Et vous êtes membre du comité de rédaction de la très belle revue en travail social qui s'appelle Le Sociographe. Nous en parlerons dans cette émission, parce que c'est important d'aborder, d'expliquer comment fonctionne une revue de qualité dans le travail social. Alors, Monsieur Touami, peut-être démarrons par cette belle institution du Sociographe. Alors, c'est une revue qui est publiée tous les trimestres. Avec nous avons là la dernière livraison, c'est La fin du monde, avec les questions de la transition écologique, la transition énergétique, avec la problématique du travail social. Ça va être dur, là. Hein. En fait, on s'aperçoit que cette problématique écologique, le travail social va être éminemment impacté. Et on voit bien, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression, mais je livre là que mon impression, qu'on ne réagit pas à cette urgence, qu'on décale, que les calendriers ne sont pas tenus, le pacte vert européen quasiment oublié, le président de la République parle d'écologie à la française, parle même d'une sobriété mesurée. J'ai l'impression que c'est mal parti, cette affaire. Alors, cette revue-là.
Comme le développement durable, hein. On est encore sur des paradoxes. Mais si oui, cette revue, donc Le Sociographe, donc, qui est basée à Montpellier, avec son directeur, Guy-Noël Pasquet, qui est une revue, alors, je n'ai pas tout à fait la date, mais qui doit avoir à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années, qui est l'une des revues en travail social française, qui fait autorité. Donc, il y a près d'une vingtaine d'établissements, donc d'écoles, d'IRTS, d'écoles en travail social, qui sont membres du Sociographe.
Alors, on voit bien que c'est l'ensemble des institutions. La géographie française est représentée.
France et
francophonie. Formation à Nîmes, formation en Corse, formation à Paris, formation à Poitiers, Toulouse, Lille, Suisse. Donc c'est vraiment une revue, comme on dit, qui ratisse très large.
Qui ratisse large, d'autant plus que la ligne éditoriale, c'est aussi de faire parler tout le monde. Donc c'est une revue repérée recherche en travail social, mais qui laisse justement la possibilité à tous les acteurs du travail social de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des étudiants qui peuvent écrire. D'accord. Vous avez également des personnes concernées qui peuvent produire des écrits accompagnés par les travailleurs sociaux. Il y a aussi du retour d'expérience de professionnels. Vous avez également des articles scientifiques, voilà, tirés de différentes disciplines. Donc, c'est une revue polyphonique. Voilà.
Et ça s'adresse uniquement aux professionnels ou ça s'adresse aussi au grand public, en tout cas ceux et celles intéressés par la question du travail social?
C'est ouvert justement à toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par les questions liées au travail social.
Voilà. D'accord. Et là, on voit bien que le travail social dans notre pays n'est pas reconnu.
Il est tout.
Et oui, il n'est pas reconnu. Nous attendons la publication du livre blanc du travail social qui a été travaillé par le Haut Conseil du travail social. Alors, on doit remettre très prochainement à Madame la Ministre ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur...
Oui, c'est un rapport qui est très...
C'est problématique. Que se passe-t-il dans le secteur, quoi?
Que se passe-t-il dans le secteur? Ce qui se passe, c'est que les problèmes, les questions sociales prennent de plus en plus d'ampleur et de poids. Et parallèlement, il y a de moins en moins de moyens alloués au travail social. On pourrait illustrer ça par un système de vase communicant. C'est-à-dire que les problèmes augmentent, mais en même temps, les moyens pour répondre à ces problèmes ne font que diminuer. D'autant plus qu'on arrive un peu à la croisée des chemins de l'histoire du social en France, dans le sens où nous sommes l'un des derniers pays où la formation en travail social se fait hors des universités, donc dans le cadre associatif. Sachant que si vous allez, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, devenir travailleur social, ça passe par l'université.
Par l'université, c'est quoi? Un bachelor, une licence, bachelor, ou un master?
Bachelor, master, doctorat en travail social.
pas en sociologie, pas en anthropologie. Non, il y a bien une discipline qui s'appelle travail social. Travail et malheureusement, dans notre pays, aujourd'hui, il n'y a pas à l'université une discipline qui s'appelle le travail social. Vous tournez autour, vous allez piller peut-être, comme on dit, piller convenablement les autres disciplines.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc on attend, hein, y a, je pense par exemple, il y a eu un manifeste du CNAM pour justement favoriser l'émergence d'une discipline en travail social. Donc c'est un peu l'arlésienne, parce qu'on en parle depuis pas mal d'années, on a parlé de la création, je me rappelle, c'était déjà au début des années 2010, de la création d'autres écoles en travail social, et à chaque fois c'est renvoyé au calendrier grec. Voilà. Donc peut-être qu'avec ce livre blanc, enfin on rentrera dans le concret, je l'espère, il devait sortir au mois de juin, mais dernière nouvelle n'est toujours pas sortie. Donc voilà, donc les principaux acteurs du secteur...
Nos amis universitaires, ils sont plutôt pour ou on sent qu'il y a de la résistance dans certaines disciplines ou vous pensez qu'il y a de l'ouverture? Parce que parfois, autant on peut considérer que l'université est ouverte, parfois, aborder d'autres disciplines, faire cette ouverture nécessaire, il peut y avoir des blocages. Quoi.
Il peut y avoir des blocages. D'ailleurs, l'une des réticences du secteur de la formation au métier du social aujourd'hui, c'est de se faire manger par l'université.
Et donc la spécificité, par exemple, la formation d'un éducateur spécialisé, alors que c'est reconnu à Bac+3 aujourd'hui.
Oui. Ben justement, ça se fait toujours hors de l'université. Donc on est en train de gérer un ensemble d'injonctions paradoxales qui ont tendance un peu à opacifier cette question de la formation. Donc peut-être qu'avec ce livre blanc, on y verra plus clair. Moi, j'espère.
Alors, il y a eu un communiqué qui a été publié récemment. La reconnaissance du travail social est avant tout un choix de société. L'UNAFORIS, Union des acteurs de formation et de recherche en travail social, et l'UNIOPS, l'Union nationale interfédérale des organismes du sanitaire et social, qui ont manifesté très clairement... il faut que l'exécutif, que les pouvoirs publics, que la puissance publique reconnaissent le travail social comme un travail d'utilité, bien entendu. La formation qui est aujourd'hui négligée, ce sont des métiers difficiles, vous le savez. On sait qu'il va y avoir notamment vieillissement de la population, qu'il y a pénurie d'étudiants. Métiers difficiles... Vous représentez une institution en travail social, l'Institut Erasme. La rentrée a été une bonne rentrée. Vous avez réussi à faire à peu près, comme on dit, le plein d'éducateurs spécialisés.
On a fait le plein.
Vous avez fait le plein, donc vous avez des jeunes. Est-ce que vous avez des jeunes motivés? Est-ce qu'au bout du bout, on va pouvoir les diplômer? Il n'y aura pas trop de défection par la suite,
non? Je l'espère. Oui. Je l'espère. Mais pour l'instant, je suis...
Quelle est la motivation de ces jeunes pour choisir ce métier? Est-ce que vous...
Alors justement, ça
vous, c'est... Comme anthropologue.
C'est une question qui nous interpelle de plus en plus. C'est-à-dire que si je remonte à 10-15 ans en arrière, on avait quand même un profil d'étudiant avec un... Comment dire? Avec une motivation qui nous paraissait claire, affichée. Beaucoup de références, par exemple, politiques. Avec, par exemple, aussi un background idéologique. Voilà, du moins, par exemple, pour ceux qui se référaient à une approche politique du travail social, ce qui a été un peu, pendant très longtemps, un peu la marque de fabrique d'Erasme, à différence d'autres écoles à Toulouse. Il semble que cette coloration politique a un peu disparu ces dernières années. Alors, aujourd'hui, on est sur des jeunes... Ça ne veut pas dire que l'engagement a disparu, mais l'engagement a changé. Aujourd'hui, on est sur des causes. On est moins sur de l'idéologie. Donc, les jeunes sont portés par des causes. C'est l'antiracisme, la question LGBT, par exemple. Mais en fait, cette question-là... Donc, on est juste sur le registre de l'intuition. Mais on n'a encore rien mené de formaliser pour essayer de comprendre cette question de la motivation. Mais je pense que c'est un sujet qui est incontournable, ne serait-ce que pour comprendre les nouvelles générations qui cherchent à monter au travail social aujourd'hui.
Et ce sont des jeunes diplômés. Alors, sur des jeunes, est-ce que ce sont tout jeune sorti du bac, des bacheliers, où vous avez également des personnes qui ont fait une année, deux ans à l'université, qui se cherchent et qui disent voilà, je veux donner du sens à ma vie, donc le travail social est une ouverture. Est-ce que vous avez cela?
On a les deux cas de figure.
Genre, vous avez les deux cas de figure.
On a les deux cas de figure. On a une filière en trois ans, si je prends éducation spatialisée, et puis une seconde en deux ans. Sur les trois ans, vous avez plutôt les parcours 18, 19 ans, voire 20 ans, avec un peu d'animation, BAFA par exemple, parfois une année à la fac. Et en deuxième année, on a ce qu'on appelle les allégés. Donc, ils arrivent avec un allègement de formation. Souvent, ils sont titulaires d'une licence, voire d'un master, soit en psychologie ou sociologie.
Voilà. À Erasme, vous enseignez quoi? Quelle est votre discipline? Vous abordez la méthodologie du mémoire? Vous abordez les projets?
Je veux que vous avez bien lu mon CV.
il est très fourni. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez fait un CV à l'américaine, comme on dit. Oui. Vous avez vraiment passé en revue vos interventions, vos conférences, votre engagement. Donc, très, 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 très riche, un CV très, très riche. Et on voit bien que ce parcours-là permettra, me semble-t-il, y compris aux jeunes, de donner l'exemple. Parce que dans ce métier-là, comment on dit, enseigner, c'est se saigner d'ailleurs aussi. Hein. C'est un peu ça, quoi. On met les tripes sur la table.
Quand on se saigne à enseigner aussi, ça va dans les deux sens.
Voilà, dans les deux sens. Alors, vous enseignez quoi?
Moi, je suis repéré sur l'initiation aux sciences sociales, donc l'ouverture aux sciences sociales, donc à la sociologie, à l'anthropologie. Après, moi, j'ai quand même un certain nombre d'objets, donc des thématiques qui me sont plus chères que d'autres. La question des migrations, la question de la grande précarité, la question de l'urbain, la question de la ville, voilà. Les trajectoires thérapeutiques aussi en psychiatrie, c'est une question que j'ai travaillée aussi.
Alors, question par rapport aux politiques sociales de notre pays, dans le médico-social et dans le social, est-ce que les jeunes diplômés sont prêts? Je vais vous donner des exemples, parce que pour que ça soit plus parlant, on voit bien, mais vous l'avez abordé dans un des sociographes, aux revues de sociographes sur l'exil. On voit bien qu'avec la problématique de l'immigration, les MNA, les mineurs non accompagnés, vous avez produit un article avec la problématique dans notre pays de la loi migration qui se prépare, le MNA. On voit bien qu'il y a une urgence humanitaire quasiment. Nous, les humanistes, il faut défendre ces jeunes, ce sont des enfants avant tout, mais c'est aussi de l'immigration parfois, il y a des filières, et donc vous voyez bien qu'un travailleur social peut être confronté à des difficultés pour trancher. Il faut respecter la loi, mais en même temps, il faut mettre à l'abri des jeunes. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez autour de la formation?
Tout à fait, c'est les questions éthiques, l'éthique du travail social, où souvent d'ailleurs les travailleurs sociaux sont pris entre le marteau et l'enclume, à la fois pour répondre justement à la demande publique ou pour être au clair avec le droit, voilà, sachant que leur pratique est quand même cadrée par...
Elle est cadrée par cadrée le
légalement.
Droit, oui.
Et puis à côté, il y a quand même la finalité profonde du travail social, c'est-à-dire œuvrer dans l'intérêt de la personne, voilà, notamment dans une approche émancipatrice. Donc, notamment sur la question des mineurs non accompagnés, on peut avoir l'impression, parfois, qui peut être très douloureusement ressenti, de plus savoir à quelle place on est. Soit on est du côté du contrôle, soit on est du côté de l'aide. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être assez malaisant, et en particulier sur la question des mineurs non accompagnés, tout particulièrement.
Et une autre question sur le médico-social. On sait bien que très, très prochainement, sur le handicap, il y a une réforme importante dans le secteur médico-social, Séraphin PH. Compter l'activité, la nomenclature, etc. Est-ce que, également, les formateurs, vous-même, les futurs diplômés, est-ce qu'ils seront aguerris à tout ce changement qui est quasiment radical? C'est une autre façon d'aborder le médico-social.
Très bonne question. Je ne sais pas tout à fait comment ça va se passer, mais ce que vous dites, nous on le perçoit très bien du côté des terrains.
D'accord.
Voilà, cette question de la quantification, cette question de la transformation paradigmatique des approches du métier. On vit un changement à 180 degrés, quand même, des métiers du social. Voilà, en l'espace de... Moi, j'ai commencé dans la formation au tout début des années 2000. En 2024, quand même, je sens le changement.
Voilà, vous avez l'expérience quand même. Hein,
on voit les clients.
Plus de 20 ans de formation. Non,
je peux dire qu'il y a un avant et un après.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Vous le sentez.
On sent qu'il y a un avant et un après. Ouais. Ouais, ouais.
Et ce n'est pas qu'un problème, pourrait-on dire, d'argent. Quoi. On voit non. que c'est un changement de modèle, changement de paradigme dans l'approche du social et médico-social.
C'est un changement total.
Total.
Total, c'est un changement social, c'est... Le modèle social a changé. Les difficultés sociales ont changé. Aujourd'hui, vous voyez des situations que je n'ai pas connues, moi, il y a quelques années, de famille à la rue, par exemple. La figure de la grande précarité a changé. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de migrants. Les migrants ont pris la place du clochard, par exemple. Mmh. Le clochard et la bouteille de vin, autrefois, c'est devenu une image renvoyée à un folklore qui n'existe plus. Aujourd'hui, voilà, chacun d'entre nous, quand il fait l'expérience de la traversée de la ville, est amené à rencontrer des nouvelles figures de la précarité. Donc ça, c'est symptomatique aussi d'un monde qui se transforme très, très vite. Et il y a un nouvel enjeu, justement, c'est comment réussir à être en adéquation avec cette réalité qui va très, très vite. Voilà. Être à la page. Voilà. Et c'est un enjeu, c'est aussi un défi, nous, du côté de la formation, de pouvoir, justement... proposer aux étudiants des grilles de lecture par rapport à un monde qui va très très vite et dont on sait que déjà sur le terrain, certains professionnels ont déjà perdu une partie de leur capacité à le comprendre, ce monde-ci.
Donc les sciences sociales apportent un éclairage. Donc la pratique des sciences sociales, exactement, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, peut être donc des clés, hein, comme vous dites, des grilles d'analyse pour mieux appréhender son métier, quoi.
Complètement.
Hein, dans les institutions. Les institutions gestionnaires et militantes ont aussi des grandes difficultés, quoi.
Complètement, bien sûr,
sont,
tout à fait.
Ouais. Alors, en plus, avec le recrutement. Alors, l'UNAFORIS, selon les acteurs de la formation comme l'UNIOPS, disent il faut expérimenter, il faut pratiquer davantage de démocratie, il faut renforcer le pouvoir d'agir de chacun dans les écoles de formation, dans l'intervention sociale. Un des grands maîtres, pourrait-on dire, de l'intervention sociale, un des grands penseurs et philosophes, Léon Bourgeois, parlait de l'intervention sociale dans notre pays, étant marqué, bien entendu, par la solidarité d'une société. Quel choix de société. Mais avant d'aller plus loin, comme c'est peut-être sombre, Brassens, qui sera chanté par Dibango, Saturne, je vous propose...
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet, qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qui n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours dans l'ange de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours dans le studio Gisèle Halimi avec monsieur Slimane Touhami, chercheur, enseignant, formateur. Mais vous faites la différence entre formateur, chercheur et enseignant, chercheur. Pourquoi c'est pas qu'on sémantique là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, vous y tenez d'ailleurs au fait de dire oh non, je suis plutôt formateur. Ce n'est pas que statutaire, si.
C'est une question statutaire. Quand même. Je me rappelle qu'il y a quelques années, avec l'ancien directeur d'Erasme, Robert Bergugnon, donc on abordait cette question du statut pour les jeunes docteurs qui venaient de rentrer dans le champ de la formation. Donc comment devait-on les qualifier? Est-ce que seulement formateur chercheur? Apparemment, le terme de formateur chercheur à l'époque commençait à se développer dans le champ de la formation sociale. Donc moi je me reconnais plus comme formateur chercheur. Mon quotidien et la base de mon activité c'est la formation. La recherche, elle n'est bon, même si j'ai quand même une quantité importante, elle reste seconde pour moi, même si on en parlera.
Et justement, on va en parler tout à l'heure, parce que vous préparez et très très prochainement, hein, vous présentez un gros travail pour l'obtention de l'habilitation à diriger de recherche, dans notre langage, dans le jargon universitaire, la HDR, avec un projet au sein de votre propre institution autour de la recherche. Quels sont vos objets de recherche et sur quoi porte votre habilitation? Parce que si j'ai eu votre travail entre les mains, on est autour de plus de 400 pages quand même, là. C'est un long travail.
400 pages, 4 ans de travail.
4 ans de travail, quasiment. 100 pages par an.
À peu près, oui. J'ai sur un rythme.
C'est le rythme. Alors, votre objet de recherche.
En page journée, on n'était pas loin d'une à deux. Oui, alors moi, le principe de l'habilitation à diriger les recherches, donc c'est l'habilitation à diriger les recherches, c'est l'héritière de la thèse d'État en France. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un travail sur soi. C'est un travail sur ses travaux, c'est un travail réflexif et analytique sur l'ensemble des recherches. Donc moi, j'ai fait une thèse donc, en anthropologie sociale que j'ai soutenue en 2007. Et de 2007 à donc à peu près 2019, j'ai publié un certain nombre de travaux, d'articles, de livres, un certain nombre de communications. Et donc à partir de là, l'idée, c'est de se pencher sur son travail pour essayer de comprendre sa trajectoire de recherche. Mais pour comprendre sa trajectoire de recherche, ça suppose d'abord de se comprendre soi-même. Donc, donc c'est ça un peu le principe.
C'est un travail d'introspection.
Tout à fait, c'est un travail analytique. Donc on replonge sur soi, sur son histoire, pour essayer de repérer un certain nombre de déterminants qui nous ont amenés, à un moment donné, à travailler sur une question plutôt qu'une autre. Voilà. Parce que moi, je pense qu'on ne choisit pas un sujet, c'est le sujet qui vous choisit. Moi, j'ai travaillé sur les questions de migration. C'est une évidence, je suis un enfant d'immigré. Hein.
Vous êtes arrivé en France jeune ou vous êtes né sur le territoire français?
Je suis natif du Tarn-et-Garonne.
Natif du Tarn-et-Garonne.
Première famille de Marocains installée dans le Tarn-et-Garonne en 1965. Ouais. Ouais, donc moi, je suis né dans le Bacquercy, du côté de Bressols, au milieu des champs de pommiers. Voilà, donc moi, j'ai vécu simultanément dans deux mondes. Hein. À l'école, j'étais mes petits camarades français. Et quand je rentrais le soir, je vivais au Maroc.
Voilà.
Donc je voyageais, je faisais mes 4000 km par jour sur un rayon de 10 km. Donc j'ai travaillé sur cette question-là. Donc j'avais fait une thèse sur les représentations magico-religieuses en migration. Et à partir de là, ben en fait, si vous voulez, à partir de ça, c'était mon travail de thèse. Et puis après la thèse, j'ai travaillé sur d'autres sujets. Le second sujet, c'était la question des trajectoires thérapeutiques en santé mentale chez les migrants. Voilà. Travailler sur la question du lien entre migration et folie. Voilà, je sais que ça interpelle aussi. C'est un sujet qui interpelle beaucoup de travailleurs sociaux, notamment qui travaillent en CADA ou auprès des mineurs accompagnés.
Alors le CADA, ce sont des centres.
Merci.
C'est important pour nos auditeurs qui accueillent donc des adultes ou des familles
demandeurs d'asile,
qui demandent de l'asile, qui attendent bien entendu que l'institution française puisse ou pas octroyer la possibilité de rester. Donc il y a un passage là.
Il y a un passage
obligé.
Obligé, parfois compliqué. Et donc j'ai travaillé, ça c'était ma deuxième période, et puis la troisième période, donc l'arrivée sur le champ du travail social, notamment avec la question des mineurs non accompagnés. Et donc l'idée, c'est de reprendre pratiquement une quinzaine d'années de recherche et de repérer justement des chapitres autour d'un concept. Donc il faut essayer de saisir une notion transversale, une question qui traverse l'ensemble de mes travaux. Et donc moi j'ai travaillé sur la notion de culture. C'est une vieille dame du vocabulaire socio-anthropologique et avec justement de très anciens débats épistémologiques qui sont d'ailleurs toujours d'actualité, hein, des controverses pour ou contre, est-ce qu'il y a une garantie de scientificité ou pas, est-ce que ça nous sert ou ça nous dessert. Donc moi j'ai voulu reprendre ça à partir de la pratique, donc par induction. C'est-à-dire que je fais le bilan de l'usage d'un concept à partir de mes travaux. Voilà. Donc, a posteriori. Et là, c'est 400 pages de travail, donc qui pèse. Hein. Voilà, et donc, prochainement, au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, donc j'irai soutenir ça devant un jury présidé par Emmanuel Jovelin. Et puis,
là, vous avez un très beau jury. Hein.
Ça va. Voilà.
Alors, comment vous avez abordé ces questions, d'abord sur l'exil, sur le sociographe, vous aviez déjà commis, hein, vous étiez en charge de la coordination d'un numéro, numéro 76, décembre 2021, le sociographe exil au pluriel, la mise en scène de la vie quotidienne avec pas mal d'articles. Pourquoi la problématique de l'immigration dans notre pays, la France? Parce qu'on peut, le dire, c'est problématique. Je crois que j'ai regardé de près, je crois qu'on est à la 15e, 16e loi sur l'immigration depuis François Mitterrand, peut-être plus. Pourquoi cette difficulté avec la France?
Vous voulez mon point de vue de sociologue ou mon point de vue de citoyen?
Votre point de vue de sociologue d'abord. Ce que vous avez observé par rapport aux enquêtes, en observant nos contemporains, c'est intéressant.
Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a une crise de l'accueil actuellement en France. Une crise des moyens alloués à l'accueil. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, et ça tous les chiffres le confirment, l'immigration est un apport financier pour des sociétés toujours plus vieillissantes, c'est le cas de l'Europe. Voilà, donc il y a une dégradation à la fois des conditions de montée vers l'Europe. Ça, il suffit d'allumer sa télévision tous les soirs pour le voir, avec le drame en Méditerranée. Mais également une crise des conditions d'accueil, avec des choses qui sont... Oui, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les figures de la grande précarité ont changé. C'est-à-dire que vous avez des bidonvilles de migrants, donc on parle souvent de Paris, mais je veux dire, à Toulouse, on a aussi le même cas.
Et pourtant, on a vécu ça hein, dans les années 50-60.
Oui.
La Défense, c'était un grand bidonville. Hein.
C'est vrai.
Il faut se souvenir de ça. Portugais, espagnol, etc. On a peut-être oublié ça, et pourtant, il y a des images. Tout cela est bien documenté.
Mais il y a une parenthèse à partir du milieu des années 70, une petite parenthèse dorée où on a détruit l'habitat insalubre, même s'il existe encore toujours. Mais on va dire que la situation s'était améliorée. On vivait encore les dernières années d'un état social. Aujourd'hui, quand même, on assiste à la fin de l'État-providence, de plus en plus. Que ce soit les questions allouées au social, mais également au médical. La fameuse main gauche de l'État ne cesse de diminuer. Et alors que les besoins, les questions sociales, elles ne cessent d'enfler. Ça, c'est mon point de vue de citoyen. Qui vient rejoindre ce sociologue.
Alors, quand vous dites du citoyen, mais un citoyen engagé, vous diriez quoi ? Est-ce qu'il y a une crainte de la population française ? Il y a une crainte ? Ou certains disent également que parfois les propres immigrés disent ben, le dernier ferme la porte, oui. Moi j'ai réussi, il ne faut pas qu'il y en ait plus qui rentrent.
Le dernier entré ferme la porte.
On a entendu ça.
Complètement. Et c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Pareil, j'en vois à la télé. Mais la France est un pays d'immigration qui s'ignore. J'ai quand même une trentaine de dialectes. Mmh. Vous avez quand même la grande ligne de fracture culturelle de la Loire, hein, les pays du Sud à l'huile d'olive, les pays de tradition germanique. Oui. On est quand même une mosaïque culturelle. Mmh. Il faut le savoir. La France a également été un pays d'émigration. Hein. On voit les Acadiens qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique.
Et les Basques qui sont partis également aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une culture basque très forte à Miami. Hein. On joue à la pelote basque. Hein. On oubliait ça.
Et puis nombre de Toulousains sont aussi des descendants d'immigrés de l'intérieur. Voilà, je veux dire, quand même, l'exode rural qui a dépeuplé une grande partie des territoires limitrophes, hein, on parle sur les Pyrénées, le Quercy. Donc, on est tous d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, interpellés par cette question, qu'on cherche systématiquement à renvoyer à l'autre.
Est-ce que vous pensez que nos hommes et nos femmes politiques ne lisent pas assez les sociologues ou n'écoutent pas assez les sociologues pour régler? Alors, il y a de la science, hein, on produit de la connaissance, et que cette connaissance ne sert pas à régler les problèmes de nos contemporains.
Il y a eu une époque où les sociologues étaient lus. Je pense à des auteurs comme Castel ou dans les années 80, notamment sur la question de la grande précarité. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on a basculé sur l'accusation de sociologisme chez une partie des politiques, pas tous, bien heureusement. D'ailleurs, critique qui est aussi portée par une partie des sociologues. Et ça renvoie quand même... Mais en même temps, je trouve ça sain dans la mesure où ça nous renvoie aussi à être vigilant, à ne pas basculer dans une forme de démagogie, et vraiment à défendre les critères et la garantie de scientificité. Parce que la sociologie, c'est pas un genre journalistique, c'est d'abord une science. C'est une science sociale, avec ses outils, avec son corpus, avec ses lois, avec ses auteurs. Et moi, je pense que la sociologie devrait être encore plus lue. Voilà, plutôt que rester confiné aux UFR de sociaux des universités de province, je pense qu'il y a de l'utilité, pas que dans la sociologie, dans les sciences sociales, c'est évident dans le travail social, mais je pense au-delà, dans toutes les sphères du social, la société au sens large. Les sociologues quand même, ont réfléchi à des thématiques, à des problématiques parfois depuis des décennies, dans les questions d'immigration telles qu'on les conçoit aujourd'hui en France. On s'aperçoit que quand on regarde outre-Atlantique, on a près de 90 ans de retard sur les Américains, notamment avec un courant très fort qui s'appelait l'École de Chicago, qui a abordé ces questions, les questions d'exclusion, de délinquance juvénile liées à l'immigration. Alors là-bas, ce n'est pas les Maghrébins ou les Africains, c'était plutôt les Polonais et les Italiens, et qui ont proposé aussi des outils, des solutions, des moyens pour essayer de limiter la casse. Donc voilà, je pense qu'il y a dans l'univers sociologique de quoi réfléchir et affiner nos manières d'intervenir auprès des publics en question.
On va continuer sur votre recherche en anthropologie, mais disons, en parcourant votre CV, comme je dis, très très riche, il y avait une curiosité qui m'intéresse et je voudrais aborder cette question. Et vous avez écrit un article sur la question anthropologique du mauvais œil. Alors là, c'est intéressant parce qu'on retrouve cela... si j'ai bonne souvenance, beaucoup de travaux également dans la société espagnole, dans la société italienne. Bref, on retrouve cela dans les pays de la Méditerranée, avec, bien entendu, un rituel pour enlever le mauvais œil.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, très lié à cette pratique qui pouvait être profane, mais en même temps très religieuse, quoi. En Italie et en Espagne, ce sont souvent les grand-mères qui, à travers une prière s'adressant à quelques saints bien, bien sentis, arrivent à résoudre ce problème, le problème du mauvais œil. Alors, dans le Maghreb, c'est quoi cette problématique du mauvais œil?
Ah, mais c'est... on va laisser les questions de précarité de côté, on va revenir.
Revenons à ça.
L'anthropologie du religieux qui en fait, c'est mon point de départ. Donc ça, c'était le sujet de ma thèse. Voilà, donc j'ai travaillé sur la question du mauvais œil. Il faut savoir que la question du mauvais œil, c'est la croyance magique la plus universelle au monde. Vous la trouvez
on la trouve dans plusieurs civilisations.
Dans toutes les sociétés.
Voilà.
Elle existe chez les Esquimaux, on la retrouve chez les Indiens, les Indiens d'Amérique du Sud, elle existe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est répandue partout. Mais on va dire que dans cette géographie du mauvais œil, le bassin méditerranéen, quand même, particulièrement,
bien fourni, pourrait-on dire.
C'est le cas. Entre le Malojo espagnol, le Malocchio italien, la Gettatura napolitaine, etc., etc. Le Matiasma grec, le Ayn, c'est le mauvais œil dans le monde arabo-musulman. D'ailleurs, c'est le même terme en hébreu. Donc, en fait, pour certains historiens, ce serait l'un des marqueurs, un héritage de l'antique civilisation méditerranéenne, des premiers agriculteurs. Donc ça nous renvoie au néolithique. Donc cette croyance serait maintenue et aurait été cultivée par leurs descendants jusqu'à aujourd'hui, hein, quand même. Je veux dire, si vous allez en Grèce ou en Turquie, vous voyez des yeux bleus affichés partout.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Dans l'angoisse de l'œil jaloux, parce que le principe du mauvais œil, c'est que l'œil envoie un influx invisible avec la jalousie, même si c'est même pas de la jalousie consciente. Et cet influx négatif va s'attaquer à l'objet désiré. Ça peut être un enfant, ça peut être une belle chemise, ça peut être une voiture. Voilà, c'est tout.
Voilà,
il n'y a pas d'objet qui ne puisse résister à la violence du mauvais œil.
Et puis, cela provoque ou l'accident, ou la maladie, ou la fièvre, etc. C'est quand même puissant, quoi. Et il y a quelqu'un qui sait l'enlever. C'est ça.
Tout à fait.
Il y a quelqu'un qui arrive avec quelques prières, avec quelques rituels, on arrive à supprimer ce mauvais œil, etc. Et ça perdure encore.
Et ça perdure encore, bien sûr.
Ça perdure encore.
Tout à fait.
Notre modernité n'a pas supprimé cela.
Oui, c'est que moi, je connais des gens autour de moi qui ont une vingtaine d'années, qui croient à la capacité à gigaoctet de leur portable. Oui, c'est un fait, c'est du factuel. Donc on est dans de la croyance à géométrie variable. À la fois, j'ai un pied dans l'hypermodernité, en même temps, j'ai un pied dans le monde néolithique, avec ces croyances qui sont très anciennes. Je préjuge pas quand je dis ça, néolithique. C'est pas une croyance arriérée, c'est vraiment une croyance d'aujourd'hui.
Ah oui, c'est une croyance d'aujourd'hui. Comme vous dites, il y a des jeunes.
Elle sait se réactualiser tout le temps.
Il suffit de se promener, comme on dit, de prendre l'avion et de voir Méditerranée, d'autres pays, vous avez raison de le dire. Écoutez, je vous propose de partir un peu et écouter une diva du Cap-Vert, donc Cesaria Evora.
Esse caminho passando também. Só Soldat is mijn terra, zijn in klauw. Soldat is mijn terra, zijn in klauw. Quem mostrava esse caminho passando bem? Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. 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 Saudade, 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 minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours en présence de monsieur Touami Slimane, formateur-chercheur à l'Institut du Travail Social Erasme. Nous parlons d'anthropologie, de sociologie, des objets de recherche. Mais je sais également, monsieur Touami Slimane, que vous travaillez avec des projets européens, notamment transfrontaliers, Toulouse, proche de la frontière hispanique. Donc vous avez des relations, me semble-t-il, avec les Aragonais, les Catalans,
tout à fait,
peut-être les Basques. Alors vous pouvez nous dire quels sont les objets de recherche que vous maintenez avec ce réseau d'universités transfrontalières?
On avait été interpellé, donc je restitue un peu le contexte, mais je crois que c'était autour des années 2017-2018, par l'Université de Perpignan.
D'accord.
Et donc nous sommes devenus partenaires, donc il y a un certain nombre de partenaires régionaux, autour d'un projet, projet européen qui s'appelle le POCTEFA. L'acronyme, je ne pourrais pas le restituer dans le détail, mais le principe du POCTEFA, c'est de favoriser les relations entre donc, l'Espagne, la région catalane, la France, l'Occitanie, et l'Andorre. En fait, il s'agit de limiter les effets de frontières pyrénéens qui ont tendance, c'est vrai, à couper. Donc c'est même si on l'appelle la montagne des porcs, le nom arabe des Pyrénées, c'est Jebel al-Portats, la montagne des portes. Donc c'est un lieu de passage.
C'est quand même un lieu de passage.
C'est un lieu de passage. Okay. Et l'idée, c'est de renouer avec ce principe du lieu de passage pour refaire du lien.
Et entre les Catalans du Nord et les Catalans du Sud, eh bien, c'est la même culture, en fait, malgré la frontière.
Et moi, je suis un gabache, donc je suis un peu plus aux normes. Mais en effet, c'est ce qu'on dit.
Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Et quand on regarde les Aragonais, même s'il y a une frontière, on sait que les frontières sont poreuses. Ça passe quand même. D'ailleurs, si on parle d'immigration, malgré toutes les frontières, malgré les barbelés, malgré cela, la frontière est faite pour être dépassée.
C'est aussi l'Occitan du Val d'Aran, je veux dire.
C'est le Val d'Aran, ben, tout à fait.
Par exemple. Donc c'est vrai que c'est il y a un effet frontière qui est très fort, et l'idée à travers ces financements POCTEFA, c'est de travailler à créer du lien entre partenaires institutionnels. Par exemple, le projet autour des mineurs non accompagnés, c'est un projet sur financement POCTEFA. Donc,
donc européen.
Donc financement européen, donc qui a agrégé l'Université de Barcelone. Il y avait Perpignan, l'Université de Perpignan.
Il y avait Lérida, Gérone, Lérida.
Il y avait aussi Gérone, Lérida. Mmh. Je ne vais pas dire de bêtises, ils étaient là aussi. Donc, Erram s'occupait de la partie française avec des enquêtes menées en Ariège auprès de mineurs non accompagnés. Et les résultats de ces enquêtes ont inspiré le numéro 76 du sociographe sur les exils. D'ailleurs, il y a un article qui restitue un ensemble de données ethnographiques que j'avais recueillies auprès des jeunes. C'était juste avant le confinement du premier.
Et donc, on publie, c'est parti. Et est-ce que les étudiants peuvent également, à travers ce réseau d'universités étrangères, faire des stages dans le cadre de type Erasmus? Est-ce que cela existe également dans le travail social? C'était une question.
Oui, ça se fait. Nous, je sais qu'on le proposait. D'ailleurs, vous voir si ça se fait encore. Mais je sais qu'en plusieurs années, on proposait ça aux étudiants, par exemple, d'aller en Catalogne. Nous avons également des liens avec l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie.
Et les étudiants sont friands de ce type d'échange, oui.
Alors, l'une des raisons qui... Alors, celle-là n'a pas changé. Il y a aussi des choses... Il y a des choses qui perdurent dans le temps. Et l'une des raisons qui amène un certain nombre d'étudiants vers Erasmus, c'est la mobilité internationale.
D'accord.
Et c'est-à-dire que nous, on propose... Donc, Erasmus propose aux étudiants de première année la possibilité de partir en Allemagne, donc à Berlin, et à Budapest, parce qu'en fait, on a créé un partenariat avec trois écoles, donc une à Berlin, une à Budapest et une en Pologne.
Voilà. Et donc là, il y a une comparaison sur le travail social dans ces pays-là.
Complètement. Donc à chaque année, il y a une thématique de travail qui est arrêtée, en accord avec les différents partenaires. Et donc, le principe même de cette mobilité, c'est d'aller visiter chacun des pays pour questionner cette problématique-là. Alors, je pense que l'an dernier, ou il y a deux ans, c'était la question de l'écologie. Cette année, ça sera la question de l'immigration. Voilà. Donc, il y a un départ là, cet automne à Berlin avec un demi-groupe. Tout le monde se retrouve à Toulouse au mois de mars. Et au mois de mai, un groupe partira à Budapest. Voilà. Et ça dure déjà depuis pas mal d'années.
Donc, on voit bien, international et recherche, c'est nécessaire aujourd'hui dans le travail social, quoi.
Il faut être mobile intellectuellement et spatialement, on n'a pas le choix.
Et les problématiques sont souvent les mêmes.
Les problématiques sont transverses.
Les politiques sont différentes, mais les problématiques demeurent.
C'est les mêmes, elles sont identiques.
Et d'où le travail en recherche, quoi. Et vous incitez fortement, M. Slimane Touhami, sur le travail social doit gagner ses lettres de noblesse en publiant et en travaillant sur la recherche. Peut-être que la reconnaissance passe par ça.
C'est la clé. Je pense que la recherche offre une plus-value au travail social. Elle participe à sa reconnaissance.
Mais est-ce que les gestionnaires, les employeurs qui recrutent vos élèves reconnaissent ou... Vous savez, souvent, ils sont réticents en disant « ils sont trop loin, c'est trop intellectuel, on a besoin des gens qui connaissent le terrain ». En définitive, moi, j'ai une réponse. Hein, parfois, pour être un bon praticien, il faut avoir une bonne théorie. Hein. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie.
Tout à fait.
Pourrait-on dire.
Et pour faire la synthèse entre les deux, c'est le praticien réflexif. Ouais. Justement, la recherche permet de questionner, de remettre en perspective sa pratique. Mais pour pouvoir la re-questionner, ça suppose aussi de se voir pédaler, pour reprendre l'expression d'une ancienne collègue. Et ça demande à un moment donné de se mettre un petit peu en pause, de sortir un peu de ce climat d'urgence permanente pour prendre le temps de réinterroger ce que l'on fait. La recherche, elle permet de mieux comprendre les contextes, de mieux comprendre les publics et les trajectoires de ces publics, et surtout de mieux affiner aussi sa pratique en direction des publics concernés. Et peut-être pour clôturer sur cet aspect recherche, actuellement, vraiment ma marotte, ce que je défends aujourd'hui, c'est la question des savoirs expérientiels, le croisement des savoirs. Autant les travailleurs sont des sachants, les chercheurs sont des sachants, mais les personnes accompagnées sont elles-mêmes sachantes. Et il s'agit de les accompagner aussi à expliciter et à prendre conscience de leur propre savoir, qui est aussi un pouvoir, et un pouvoir d'émancipation. C'est un long chemin, c'est un combat, parce que autant, je veux dire, sur une feuille de papier, ça parle. Pour le mettre en pratique, il faut un peu plus de temps. Mais c'est comme ça que j'envisage plus tard, moi, ma poursuite dans la recherche.
Est-ce que les organismes gestionnaires, associations de l'économie sociale et solidaire, pratiquent des recherches appliquées, viennent vous proposer des contrats ou pas? Ce n'est pas du tout dans l'air du temps encore. Ça se fait de façon très éparse.
Éparse, confidentielle.
Très confidentielle. Non, il n'y a pas une pratique, pourrait-on dire, encore dans le secteur. On le voit dans l'industrie. Hein. Mm-hmm. Il y a des bourses pour des jeunes docteurs. Mm-hmm. Il y a des bourses pour des recherches appliquées. Là, dans le secteur social, ça ne prend pas encore.
Ça ne prend pas pour deux choses. D'une part, parce que...
C'est peut-être de le financement aussi, parfois.
Hein, je pense qu'il y a aussi une question de financement, ça c'est évident. Il y a aussi une question de culture institutionnelle. Hein. Il y a aussi le fait que ce soit l'associatif qui ait pris la main et se dire finalement la recherche c'est ailleurs, c'est l'université. Il y a aussi, il faut le reconnaître, une certaine culture de l'anti-intellectualisme qui a longtemps persisté dans le travail social, même si aujourd'hui elle disparaît, je trouve. Hein. Elle est en train de... Parfois on peut buter encore au-dessus. Mais
alors, on veut des gens pratico-pratiques, c'est ça la demande de savoir.
Mais la pratique a besoin de cogite.
Ben oui.
Et par contre, là où je vais être optimiste, quand même, j'ai l'impression qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère. Je persiste à croire qu'on est en train de tourner une page d'un nouveau chapitre et que demain, comme la reconnaissance à niveau licence du diplôme d'éducateur spécialisé, qui a été quand même une petite révolution en soi, je pense que ça va ouvrir la voie à la recherche, à une institutionnalisation de la recherche qui a commencé déjà à jeter quelques graines ces dernières années, notamment je pense à des diplômes comme le DIS ou le DSTS. Et je persiste à croire que les choses vont prendre. Je reste quand même.
Donc il y aura des partenariats entre les institutions de formation, milieu associatif, avec les universités, des partenariats, pourrait-on dire, assez profonds sur les diplômes. Peut-être des doubles diplomations, comme on dit dans notre jargon.
Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Après... Bon, je ne vais pas non plus jouer le prophète, mais j'aurais tendance à croire qu'on ne peut plus faire l'impasse sur la recherche.
Donc vous allez continuer après la HDR?
J'espère.
Les prochains objets de recherche?
J'espère. On verra. Pareil, c'est une nouvelle page qui se tourne aussi pour moi.
Une nouvelle page qui se tourne. Nous arrivons au terme de notre émission, un parcours. La revue Sociographe, comment fait-on pour la recevoir, pour s'abonner? Il y a un site, il y a quelque chose?
Vous avez
on s'adresse directement à vous par...
Non, vous avez un site.
Vous êtes le commercial Sociographe.
Je préfère pas endosser ce constat-là. Non, mais sur le site, vous avez toutes les démarches à faire pour pouvoir
d'accord,
le recevoir.
Pour pouvoir, oui.
Mais il est quand même assez largement diffusé. Alors, sur le Sociographe, donc, c'est trimestriel.
Trimestriel,
avec hors-série une fois par an. Avec quand même des thématiques assez riches. Alors, le dernier, c'était Fin du monde. Rapidement, travail social et bénévolat. Ça, pareil, c'était ça. J'en ai ramené quelques-uns.
Oui.
Souffrance sociale et solidarité. Quand le travail social souffre de précarité, ça, c'était aussi un autre numéro. Donc, voilà, il y a tout un florilège. Donc, c'est riche. L'équipe est sympa, les gens sont engagés, moi, j'y me retrouve aussi. Je retrouve avec eux vraiment les fondements du travail social, l'esprit pionnier du travail social. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi à les retrouver quand je peux me libérer, sinon on le fait en distanciel parce qu'on se retrouve tous les trois mois pour faire notre comité de rédaction. Mais voilà, et l'esprit aussi du sociographe, c'est aussi sa possibilité aux travailleurs sociaux de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, d'investir cet espace-là qui est vraiment la prémisse de la recherche, c'est-à-dire l'écriture.
Monsieur Touamy, merci, merci beaucoup. On sent qu'il y a de l'enthousiasme.
Merci.
Vous ne baissez pas la garde. Vous êtes peut-être un guerrier de la recherche en travail social.
Qui sait,
on utilise cette métaphore, sentinelle d'humanité, esprit Occitanie, nous démarrons cette nouvelle saison avec mon invité, monsieur Touamy Slimane. Sociologue, anthropologue. Merci,
merci
de votre passage dans nos locaux, dans nos studios. Chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, toujours autour du social, sentinelle d'humanité. Et je recevrai Julien Chanu, un directeur dans une MEX dans la région toulousaine. Merci et à très bientôt.